Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 29 juillet 2011. Troisième sans minute de notre débat de ce soir, à savoir forum signé partis politiques à Kinshasa. Les partis politiques, regroupements politiques et candidats de la majorité présidentielle ont adopté le code de bonne conduite en l'absence de l'opposition. Celle-ci exige plusieurs préalables, notamment son implication dans la gestion du serveur central de la CENI et l'audit du fichier électoral. Dans notre deuxième thème, nous reviendrons sur l'intense activité politique observée le week-end dernier à Kinshasa. Le MLC aligne Jean-Pierre Bemba à la présidentielle de 2011. Antoine Gizeng appelle à soutenir le candidat nationaliste de gauche. Léo Kengwadondo appelle à soutenir une candidature commune et non unique de l'opposition. Et enfin, François Mwamba lance une nouvelle plateforme de l'opposition. Dans notre dernier thème de ce soir, il sera question de la grève des vendeurs et commerçants des différents marchés de Kinshasa. Ils exigent aux commerçants expatriés d'abandonner l'exercice du petit commerce au profit des seuls Congolais. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour le débat. Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise.
Bonsoir Kaline.
Innocent Kaboukala, coordonnateur général de Global Télévision, une télévision privée qui émet également depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent.
Bonsoir Kaline.
Et Jean-Baptiste Badera qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est secrétaire de rédaction à la radio télévision, plutôt à la radio Maendeleo, émettant depuis Bukavu au sud Kivu et correspondant de Digital Congo à Bukavu. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les trois thèmes que nous avons retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Le forum CENI et parti politique, les intenses activités politiques le week-end dernier à Kinshasa et la grève des vendeurs et commerçants des différents marchés de Kinshasa figurent parmi les sujets qui ont occupé les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Concernant le premier sujet, le climat tempéré titre, élections apaisées, l'opposition pose des préalables. Ce journal souligne qu'à l'ouverture du forum CENI et parti politique, l'opposition a exigé du président de la CENI des concertations préalables avant de se constituer en atelier pour l'amendement du code de bonne conduite. La prospérité de son côté titre, opposition CENI, ça brûle. Ce journal fait allusion au mémorandum de l'opposition reprenant les préalables à sa participation aux élections de novembre prochain, déposées mercredi 27 juillet dernier au bureau de la CENI. Pour le phare, parmi ces préalables, il y a l'exigence de la gestion collégiale du serveur du fichier électoral, de la nécessité d'élaguer les militaires, policiers et étrangers et les mineurs enrôlés, la sécurisation des membres de l'opposition et de leurs électeurs, de la correction à apporter au territoire et secteur introuvable dans le fichier électoral. Sur un autre registre, la prospérité relève la position d'Antoine Gizenga de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Selon ce journal, en désistant, Antoine Gizenga entend réagir par un appel à l'unité de la gauche nationaliste devant les manœuvres de regroupement de la droite et le risque de retour de celle-ci à la tête de la RDC. Terminons cette revue de la presse avec la grève des vendeurs et commerçants des différents marchés de Kinshasa. L'Observateur mentionne dans ses colonnes l'organisation à Kinshasa d'une journée sans marché. Ceci suite au ras-le-bol des commerçants détaillants en colère contre les expatriés. Ces derniers, censés faire le commerce des gros, se lancent dans le commerce en détail. Les plus visés selon l'Observateur sont les Chinois et Indo-Pakistanais qui sont présents dans les petits marché de Kinshasa. L'avenir pense que les vendeurs ont grévé pour riposter contre les tracasseries de toutes sortes dont ils sont victimes. En même temps, poursuit le confrère, on voit ces expatriés vendre des articles de friperie, des poissons chinchards et autres articles alimentaires. Pire encore, ces commerçants expatriés vendent des produits encore moins chers que les nationaux qui ne vendent presque plus.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Ambroise Mamba, vous êtes journaliste à Congo Web Télévision. C'est une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. La semaine a été assez riche en informations. Un mot sur la revue de presse que nous venons de suivre.
La revue de presse est bonne, elle est bien traitée. On a vu que les confrères de la presse écrite ont pris leur responsabilité à même pour informer la population. C'est très bien traité, très bien fait.
Innocent Kaboukala, vous êtes coordonnateur général de Global Télévision. C'est une autre télévision privée Kivik, mais également depuis Kinshasa. Est-ce qu'il y a eu d'autres sujets d'actualité, hormis les sujets que nous avons retenus pour les débats de ce soir?
Oui, je vois par exemple l'exil, tant parlé de Moïse Katumbi Chapwe. C'est un sujet qui était quand même intéressant, qui alimentait beaucoup de débats. Je souhaitais que ce soit un des sujets qu'on retienne pour ce soir. Mais à côté de ça, il y a l'arrivée, par exemple, de Étienne Tshisekedi. Donc, je pense que c'était les deux sujets qu'on aurait pu ajouter par rapport à cette revue de presse. Du reste, c'est très bien faite.
Nous saluons l'entrée de Jean-Baptiste Badera, secrétaire de rédaction à la radio Maendelo. Le temps pour lui de s'installer. Nous allons passer à notre premier thème de ce soir. L'opposition politique congolaise exige son implication dans la gestion du serveur central de la CENI et l'audit du fichier électoral. C'est entre autres les préalables présentés par les partis et regroupements politiques de l'opposition qui constituent, d'après eux, des instruments majeurs de la confiance entre l'opposition et la CENI. Cette demande de l'opposition politique était contenue dans une déclaration faite mardi dernier à Kinshasa à l'issue d'une rencontre d'évaluation du processus électoral. Les partis de l'opposition ont aussi réaffirmé leur volonté de participer à des élections transparentes, démocratiques et apaisées. On écoute un extrait de leur déclaration lu par Jacquemin Chabani de l'UDPS. Ses propos sont recueillis par Mimi Ngumba.
Pour ce faire, elle exige la prise en compte des préalables ci-dessous. Le vote et la publication de l'annexe à la loi électorale avant le dépôt des candidatures. La mise en réseau des centres, des bureaux et le serveur. La sécurisation du processus électoral par la mise en place de la Cour constitutionnelle et des autres juridictions devant intervenir dans le processus électoral. Et l'implication de la CENI dans la libération des combattants arrêtés, notamment ceux de l'UDPS. La publication de toutes les opérations liées à l'impression des bulletins de vote, l'audit des finances de la CENI et de la CEI, l'indépendance effective et réelle de la CENI.
Rappelons que le code de bonne conduite a été adopté depuis lundi à Kinshasa par les partis politiques, regroupements politiques et candidats aux élections. Ce code va réguler le comportement des acteurs politiques pendant la période électorale. Il renferme donc des droits et obligations de ces derniers, mais aussi des dispositions conservatoires et sanctions à l'endroit des contrevenants innocents Kabukala. Comment vous analysez cette situation, l'adoption de ce code de bonne conduite en l'absence de l'opposition?
C'est déjà un danger. Du fait que l'opposition est un partenaire important dans l'organisation de ces élections ici. Je me souviens, s'il faut rentrer un peu dans le temps, son temps, lorsqu'il fallait déterminer le calendrier électoral, la CENI s'est donnée pour mission principale intéresser tous les acteurs qui interviennent, donc les partis politiques. On a vu, et là on a parlé d'un calendrier commun, un calendrier de tout le monde concerté, et donc il ne devait pas y avoir de contestations. Et tout le monde a fait applaudir à l'époque parce que on a vu que le président de la CENI, Daniel Ngoye Mulunda, qui a tenté de faire un peu différemment de ce qu'on avait reproché à l'abbé Malumalu. Mais comment explique-t-on qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'adopter un document aussi important pour les enjeux que nous avons, et qu'on accepte comme ça, adopter ces documents pendant que une bonne partie de ceux qui sont intéressés par ces élections ne soient pas là, notamment l'opposition. Donc ça devient déjà un très grand problème. On dit que ces élections doivent être transparentes, doivent être apaisées. S'il faut rester dans les termes, la transparence voudrait que ceux qui sont impliqués soient au courant de tout ce qu'il y a comme règles de jeu. Comme ça, il n'y a personne qui peut faire des contestations. Alors, s'avancer dans cette situation-là, moi je crois que c'est dangereux, c'est quand même assez risqué de la part des membres de la CENI. Peut-être le mieux à faire serait de tenter davantage geler, pourquoi pas, arriver à donner peut-être toutes les garanties pour que l'opposition revienne dans la salle et qu'on en arrive à cette adoption. Mais sinon, vous savez, code de bonne conduite, c'est un ensemble de règles que l'on définit. Alors, qui sont les acteurs? Il y a la CENI elle-même, parce que pour des raisons de crédibilité, la CENI, elle doit observer un certain nombre de faits là-dedans, mais aussi les acteurs eux-mêmes, les candidats et les partis politiques, tout ça. Alors, on ne comprend qu'il y ait des gens qui l'acceptent et les autres qui ne l'acceptent pas. Donc, il y a quand même un effort à fournir de ce point de vue-là. Je me pose la question, comment est-ce que ça va se présenter dans un avenir très proche? Parce qu'on est déjà pratiquement dans un processus engagé. Et quand on adopte, c'est qu'on avance, on ne recule plus. Alors, c'est dangereux.
Ambroise Mamba, l'opposition exige plusieurs préalables, notamment son implication dans la gestion du serveur central de la CENI. États-Unis et l'audit du fichier électoral sans ces préalables, est-ce qu'on ne peut pas avoir des élections transparentes?
Oui, je commence par la première phrase. Comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, l'opposition est partenaire important dans l'organisation des élections. Lorsque l'opposition pose d'abord le problème de l'implication, son implication dans la gestion du serveur central, il faut voir là que l'opposition veut voir clair dans ce qui se passe au niveau de la CENI. Parce que la CENI qui travaille, même si elle a dans son bureau les délégués de l'opposition, la majorité, mais ce dernier, leur cordon ombilical a déjà été coupé de leur famille politique. Alors ici, l'opposition voudrait voir clair par rapport à ce qui se passe au niveau du serveur central de la CENI pour voir effectivement s'il y a des résultats, qui a gagné, dont la transparence. Alors voilà pourquoi l'opposition a fait cette démarche ou bien cette exigence. C'est un préalable que le bureau de la CENI doit prendre en compte si le bureau de la CENI veut organiser les élections dans la transparence. Et je rebondis pour revenir un peu à ce qui s'est passé au Palais du Peuple dernièrement lorsque l'opposition a claqué la porte du forum sur les codes de bonne conduite des partis politiques. Ici, Ngoï Moulunda et les partis essentiellement de la majorité ont adopté les codes sans l'opposition. Ici, on veut engager l'opposition dans quelque chose qui n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que je trouve que Ngoï Moulunda a s'est laissé corrompre moralement. Quand je parle de la corruption, il ne s'agit pas de la corruption matériel, il s'est laissé corrompre moralement par le fait que il a abandonné pratiquement l'esprit du consensus qu'il a amené lorsqu'il a pris ses fonctions. Il est parti voir l'opposition très fort quand il fallait élaborer le calendrier électoral. Il a vu encore les partis politiques quand il fallait adopter le code de bonne conduite. Mais ici, quand l'opposition qui a dit par exemple que non, elle venait de recevoir le texte séance tenante, il fallait lui donner 24 heures pour entrer dedans, faire des amendements et puis adopter. Ngoï Moulunda s'est comporté en petit dieu carrément et ça pouvait pas passer comme ça, et là il risque d'être suspecté, il risque d'être discrédité aux yeux de la communauté nationale et internationale, et là il n'a pas droit à l'erreur, il devait quand même accepter. Et là je vois pas comment l'opposition va appliquer le code de bonne conduite qu'il l'a pas engagé parce qu'il l'a pas adopté.
Jean-Baptiste Badera, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes secrétaire de rédaction de la radio Maendeleo. C'est une radio qui émet depuis Bukavu au sud Kivu et vous êtes correspondant de Digital Congo à Bukavu. Selon vous, pourquoi le président de la CENI a accepté que ce code soit adopté sans la présence de l'opposition?
Ok, merci beaucoup encore une fois, mais je crois que c'est déjà très mal parti pour les élections en République démocratique du Congo. Et mon confrère Ambroise Mambala dit, il a estimé que, en principe, la CENI, les acteurs de la CENI devraient être neutres, c'est-à-dire qu'ils ont coupé le cordon ombilical avec leur famille politique. Mais au vu de ce qui se passe avec notamment ce que vient de faire la CENI, je crois que ce n'est pas ça le cas. Ce constitue pour moi un danger pour les élections à venir dans le pays, parce que déjà dès le départ, c'était très mal parti quand on peut signer sans l'opposition. Et c'est comme s'il y a une sorte d'effet dominant sur le continent africain avec la plupart des CENI, des commissions électorales qu'on voit en Afrique et qui, dès le départ, on a comme impression que ces commissions jouent les jeux du pouvoir en place, ce qui n'est plus normal dans les jeux démocratiques. Et pour moi, je trouve que c'est déjà un danger, c'est très mal parti. Et quand on lit les médias qui paraissent chaque matin, qu'on suit les médias à Kinshasa, on sent que c'est déjà très mal parti. Si l'opposition se retire pour de bon, par exemple, ou si, par exemple, ça continue sur la même lancée et que l'opposition, à chaque fois, est obligée de manifester pour réclamer ses droits, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'estime donc, à mon avis, que c'est très, très mal parti. Et c'est un risque hein, pour le pays. C'est un risque quand on voit le contexte actuel sur le continent. En tout cas, moi, je suis très pessimiste par rapport à la poursuite du processus dans le pays, au vu déjà du départ qui est très mauvais.
Et innocent. Est-ce que l'opposition ne serait-elle pas en train de préparer un boycott des élections?
Bon, tout porte à croire à cela. Mais est-ce qu'on a la possibilité d'y penser nécessairement? Je pense qu'on nous donne seulement l'occasion de le faire. C'est clair. C'est que même si les intentions étaient cachées quelque part, mais à partir du moment que la CENI ne s'est pas comporté en responsable, donc on peut penser que la suspicion ne pèse plus sur l'opposition, mais plutôt une possibilité, une voie qu'on a ouvert par la CENI elle-même à l'opposition pour pouvoir boycotter les élections. Donc vous voyez qu'à l'unanimité, tous nous sommes d'avis que le geste de la CENI est un geste très très dangereux pour le processus. Donc
tout risque est déjà compromis.
Donc, le président de la CENI devait laisser 24 heures ou 48 heures à l'opposition, comme elle avait demandé.
Ça ne coûtait rien, parce que je crois que si on leur posait la question, certainement on vous dira, non mais voilà, on risque de perdre du temps, mais on en a déjà perdu autant. Je crois qu'un jour supplémentaire ne ferait pas trop de mal par rapport au temps qu'on a déjà perdu, mais ne fût-ce que pour donner une possibilité, une chance à ces élections. Le boycott, en tout cas, il faut déjà s'y préparer.
Alors, Ambroise, qu'est-ce que vous en pensez sur le boycott
par rapport à la même question, je pense que ici, il ne faudra pas suspecter l'opposition. Il faudra par contre suspecter la CENI, parce que l'opposition, dans ses revendications, notamment lorsqu'on parle des irrégularités dans les opérations de révision fichier électoral. Alors, les revendications de l'opposition sont fondées. Est-ce que quand on pose des problèmes fondés, on prépare les boycotts? Non. Si le problème n'est pas fondé, on peut peut-être suspecter le boycott. Mais est-ce que parce que les problèmes sont fondés, il faut parler des boycotts non plus? Mais il faut peut-être parler d'une suspicion de la fraude ou de la tricherie lorsque la CENI fait fi aux revendications de l'opposition, par exemple. Vous allez peut-être remarquer que les gens de la majorité sont sereins aujourd'hui. Quand l'opposition est en train de parler des problèmes des transparences, des neutralités, d'impartialité dans le chef du bureau de la CENI. Mais la majorité est sereine.
Mais il y a des gens de l'opposition au sein du bureau de la CENI.
Effectivement, c'est ce qu'a voulu la loi, effectivement, qu'il fallait que le choix au niveau du bureau de la CENI s'efface parmi les personnalités indépendantes, trois de l'opposition, quatre de la majorité. Mais quand ils sont en fonction, ils sont coupés. Leur cordon ombilical qui les lie à leur famille politique sont coupés et puis ils deviennent indépendants. Et puis l'article 16 sur la CENI demande à tout partenaire, tout parti politique de saisir la CENI quand il y a un problème. C'est ce que fait l'opposition. L'opposition ne va pas aller contacter son délégué au niveau du bureau la CENI. Elle contacte la CENI tout entière parce qu'il y a la déviation. Que ce soit les gens de la majorité ou l'opposition qui sont au bureau de la CENI peuvent trahir leur famille politique. Voilà pourquoi on va vers la CENI. Alors les gens de la majorité sont sereins. Ils pensent qu'ils crient déjà à la victoire. C'est peut-être eux qui sont en train de préparer l'opinion à accepter leur victoire alors que les élections n'ont pas encore eu lieu.
Et vous pensez que la CENI favorise un peu l'opposition, plutôt la majorité?
Il y a en quelque sorte une convergence d'intérêts entre la CENI et la majorité parce que la majorité ne dénonce pratiquement rien et tout ce que fait la CENI semble être parfait pour elle. C'est ce qui est vraiment dangereux. Donc, il y a une convergence d'intérêts entre la CENI et la majorité.
Jean-Baptiste, vous pensez aussi qu'il y a convergence d'intérêts entre la majorité et la CENI, comme l'a dit Ambroise?
Oui, à voir ce qui se passe, on est tenté de croire que c'est ça exactement, parce que nous venons par exemple du Sud Kivu, où on a vu des kits électoraux arriver à 3 jours de la date de la fin de la prolongation de l'opération de l'élection du ciel électoral au Sud Kivu. Ce qui est anormal, on ne sait pas dans 3 jours comment on pouvait être à mesure de déployer ces kits dans les territoires de Chabunda où on n'a pas réussi à les faire pendant plusieurs semaines, dans les territoires de Fizi par exemple. Donc tout cela porte à croire qu'il y a une sorte de complicité entre la CENI et probablement avec le pouvoir en place, parce qu'on peut comprendre, il y a certaines démarches qui le prouvent. Comme l'a dit mon confrère Ambroise Mamba et Innocent Kabukala, je pense qu'il y a des choses, quand il y a des indicateurs que l'opposition avance pour dire qu'il y a tel ou tel chose qui ne marche pas bien, il n'y a pas lieu de refuser ou de laisser les choses aller comme on est en train de le voir, mais il y a lieu de s'arrêter un moment et de réfléchir et de voir comment on peut répondre ou on peut prouver à la face du monde et en particulier de la RDC que ce que l'opposition revendique n'est pas du tout fondé, mais quand on s'était ou quand on veut évoluer, on risque de laisser les choses aller à vol, ça sera très malheureux pour les pays.
Et si la CENI ne prenait pas en compte les revendications de l'opposition, qu'est-ce qui pourrait arriver?
La vie que nous vivons aujourd'hui sur le continent africain et même dans d'autres cieux prouve que il n'est pas aisé de laisser une partie penser qu'elle peut évoluer parce qu'elle veut évoluer et laisser les autres à côté. C'est un danger. Moi, je pense que ce n'est pas ça qu'on peut souhaiter pour la RDC. Je pense que la CENI, l'opposition et le pouvoir en place devraient se mettre en place pour effectivement dire ce qu'on essaie de répéter à la population congolaise, qu'on veut des élections transparentes et apaisées.
Merci Jean-Baptiste Badera. Deuxième thème de ce soir, intense activité politique observée le week-end dernier à Kinshasa. Le MLC aligne Jean-Pierre Bemba à la présidentielle de 2011. Antoine Gizeng appelle à soutenir le candidat nationaliste de gauche. Léon Kengwa Dondo appelle à soutenir une candidature commune et non unique de l'opposition. Et enfin, François Mwamba lance une nouvelle plateforme de l'opposition. Les résumés de toutes ces rencontres avec vous, Alain Irung.
Clôturant son congrès samedi dernier, le MLC a reconduit Jean-Pierre Bemba Gombo pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de son parti et demeure à cet effet le candidat de ce parti à l'élection présidentielle prochaine. En retenant la candidature du sénateur Bemba Gombo, le MLC se dit confiant de la libération de son leader par la Cour pénale internationale. Quittons le MLC pour le Palou, qui entend pour sa part soutenir le candidat nationaliste de la gauche à l'élection présidentielle prochaine. Le secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié l'a déclaré toujours samedi dernier au cours d'une communication faite à sa base à Kinshasa. D'après Antoine Gizenga, son parti alignera des candidats à la députation nationale et provinciale, sauf à la présidentielle. Parlons encore politique le week-end dernier avec la sortie officielle de la nouvelle plateforme politique de l'opposition du député national François Mwamba. Alliance pour le développement et la République, c'est son nom, a mobilisé des centaines de sympathisants dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Anne à Kinshasa. Un seul message, l'enjeu électoral pour l'émergence des institutions fortes dont le Parlement. Terminons par la sortie de Léon Kengo Adondo, président du Sénat, qui invite l'opposition à se mettre ensemble en vue d'élaborer un projet commun de société pour le changement. Invitation lancée à la sortie officielle de son parti, l'Union des forces du changement à Kinshasa. L'UFC, selon son président national, est un parti de l'opposition. Kengo Adondo affirme ainsi soutenir le candidat de l'opposition capable de rassembler tout le monde pour la bonne gouvernance.
Ambroise Mamba, comment expliquer cette effervescence politique à quelques mois des élections? Le MLC qui aligne Jean-Pierre Bemba à la présidentielle de 2011, on sait que Jean-Pierre Bemba est en prison. Est-ce
et d'abord, je comprends la position du MLC parce qu'effectivement, il faut d'abord faire monter les enchères. Le MLC ici veut prendre une position politique parce que Jean-Pierre Bemba est toujours détenu au niveau de la CPI. Il fallait qu'on fasse prouver à la face du monde que Jean-Pierre Bemba qui est détenu, on a besoin d'élu par sa population parce que le MLC a une base. Et puis, le MLC n'a pas non plus exclu la conclusion des alliances stratégiques pour l'emporter. Parce que s'il arrive que Jean-Pierre Bemba n'a pas la possibilité de venir au pays parce que les opérations de revue officielle électorale se sont déjà terminés, c'est qu'il n'aura peut-être pas sa carte d'électeur, à moins qu'il y ait une disposition au niveau de la loi sur qui organise l'élection pour qu'il puisse bénéficier d'une circonstance atténuante. Mais ici, Jean-Pierre Bemba est déjà écarté au départ. Mais le MLC va devoir faire avec l'UNC de Vital Kamerhe ou l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, peut-être pour des alliances stratégiques pour l'emporter. Mais ici, l'effervescence, je comprends par exemple par rapport aux ambitions personnelles. Ici, il ne s'agit pas des objectifs d'intérêt national qu'on poursuit par les gens de l'opposition, mais il s'agit des ambitions d'ordre privé. Quand on voit un Kengo, personnalité politique, président du Sénat, créer son parti, on voit un François Mwamba qui a des problèmes au niveau du MLC, qui crée une plateforme, encore faudra-t-il qu'il y ait dans la plateforme et qu'il y ait son propre parti. C'est pas si c'est le MLC ou c'est un autre parti, la justice va devoir trancher. Quand je vois le Vital Kamerhe qui était chaque fois avec Tshisekedi, enfin il a sa propre plateforme et qui le soutient ainsi de suite. Et là je vois que les opposants, ils ont à l'idée qu'il faut aller ensemble pour l'emporter, mais ils savent pas comment y arriver. Quel sera le candidat comme l'opposition? Qui initie les pourparlers pour que les opposants se réunissent enfin et pour qu'ils puissent désigner quelqu'un? Là on réfléchit pas par rapport à ça et c'est là que le bât va blesser parce que les opposants vont devoir faire monter les enchères pour qu'on puisse se partager le gâteau au cas où ça ne tient pas. Et ça ne va pas les bénéficier à l'opposition. On risque de créer la dispersion des voix et en créant la dispersion des voix, le chef de l'État sortant risque de l'emporter.
Il y a plusieurs plateformes de l'opposition. Kengo, avec son parti, la sortie de son parti politique, il appelle à soutenir une candidature commune et non unique de l'opposition. Qu'est-ce que cela voudrait dire selon vous?
Oui, je vais revenir à votre question hein, précise, mais je vais juste ajouter un petit mot par rapport à ce que mon confrère Ambroise venait de dire. Vous voyez, le problème, d'abord, c'est tout à fait normal, hein, qu'il y ait de l'engouement autour des élections et qu'il y ait des gens qui prennent des stratégies à gauche, à droite, des partis politiques, des plateformes, des structures qui leur permettent justement d'arriver à ce pouvoir-là. C'est un fait normal pour cette période. Mais en ce qui concerne le MLC, Ambroise, non. Non, il faut pas se voiler la face. C'est une mauvaise foi des gens du MLC. Ils ont décidé eux-mêmes d'émietter ce parti-là pour des raisons qui ne tiennent pas. À partir de quel moment Jean-Pierre Bemba pourrait-il se présenter comme candidat? Non, il faut pas rêver. C'est tout le péché, c'est ça même le problème qui est à la base du départ de François Mamba. C'est cette manière-là, une espèce de tribalisme inutile. Mais non. C'est clair, Jean-Pierre Bemba, tout le monde nous regrettons, c'est notre frère, il est là où il est, bon, personne ne peut s'en réjouir, mais il faut être réaliste.
il ne peut pas revenir. Il n'y a pas de disposition qui pourrait lui donner cette possibilité-là. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Jean-Pierre Bemba.
Pour le non, MLC, il a la chance de quitter
non,
sa cellule avant les élections.
Non, il ne faut pas qu'on continue à tromper les gens. Je n'ai rien contre le MLC. Ce parti, ils ont besoin de s'organiser. Ceux qui restent, raffermir encore leur unité pour rester comme parti politique. Et ça pourra faire plaisir davantage à Jean-Pierre Bemba. Je crois qu'on n'a pas besoin de dédicer à les gens des messages du genre, non, mais voilà, venez, le message de Jean-Pierre Bemba, pour juste créer de l'engouement. Parce qu'eux-mêmes, ceux qui sont là, ils sont incapables de réunir, de mobiliser les gens. Et ça n'a pas de sens, cette histoire. Il faut dire à la population la vérité. Alors, par rapport à la question, mais le président Kengo a fait d'abord preuve d'une maturité politique. Ça, moi, j'ai apprécié. C'est un discours très apaisé, un discours très conciliant, contrairement aux autres qui sont arrivés avec beaucoup plus d'ambition. Il a dit qu'il était un parti jeune et donc il avait besoin de suivre la voie des autres et qu'on devait le soutenir, tout à fait normal. Et donc une candidature commune ne peut pas être confondue à une candidature unique. Mais ça veut dire le mot commun, c'est être d'accord autour d'un principe, d'un idéal. Vous comprenez ? Alors à ce moment-là, ça devient très important.
Pour ressortir une candidature unique à la fin.
Alors, pas unique. Parce que le mot unique, il faut le sortir de ce contexte. Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment que nous avons dit tous non à des formes uniques, hein, parti unique et tout ça, donc on ne peut plus utiliser ce terme parce qu'il frise un peu la dictature. Mais par contre, une communauté, on se met d'accord, il y a un consensus qui se dégage autour d'un candidat, et le terme paraît beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Et ça, quand ça sort d'un type comme Léon Kengo, il faut applaudir ça.
Jean-Baptiste Badira, comment vous analysez toutes ces annonces, toutes ces déclarations de part et d'autre, que ce soit de la majorité ou de l'opposition? On va commencer par le MLC avec Jean-Pierre Bemba, candidat aux élections de 2011. Léon Kengo Adondo avec la sortie de son parti qui appelle à une candidature commune et non unique, qui appelle même à voter chrétien. Et puis Antoine Gizenga qui appelle à soutenir le candidat nationaliste de gauche.
Merci Kelly. Je trouve que c'est vraiment normal cette situation à la veille des élections dans le pays qui est la République démocratique du Congo. Parce que comme vous le savez, avec plus de 400 partis politiques, il est tout à fait normal qu'on puisse avoir des situations pareilles à quelques mois des élections prévues en République démocratique du Congo. Par rapport au MLC qui vient de terminer son congrès le samedi dernier, moi je pense, contrairement à ce qu'a dit Innocent, que c'est tout à fait normal, un peu comme l'a dit Ambroise Mamba, parce que Innocent a semblé réfléchir comme si c'était une situation académique. Ça, c'est une démarche politique. Ça n'a rien à voir avec le fait que Bemba soit en prison. Parce que tout le monde le sait, même son parti le sait, et ses militants le savent. Bemba est en prison, et sur les ondes, je crois, des radios Okapi, j'avais suivi un de ses militants dire qu'il jouit de la présomption d'innocence. Donc pour eux, à n'importe quel moment, il peut être libéré, même si ça n'est pas ça exactement la situation qui va arriver. Et que donc là, c'est une question politique, c'est sur un terrain politique, et qu'ils ont encore une fois proposé la candidature de Jean-Pierre Bemba pour les 5 prochaines années. Et c'est là pour qu'ils paraissent sous l'échiquier politique qu'ils existent. Dans tous les cas, Bemba a été le deuxième maire élu de la République après Joseph Kabila Kabange. Et que donc, au bout de 5 ans, on peut dire que tout est fini. Et que Bemba étant en prison à La Haye, c'est fini pour lui. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y a ce balai qu'il y a autour de Jean-Pierre Bemba à La Haye, parce qu'on connaît la valeur qu'il représente sur le plan politique en République démocratique du Congo.
Alors, par rapport à la sortie de Léon Kengo Adondo.
Par rapport à la sortie de Léon Kengo Adondo, moi, je pense que ça a été vraiment très sage. Hein, et je salue ses propos. On a suivi. Il a plaidé pour un candidat, d'abord pour un programme commun au niveau de l'opposition. Mais également, il a parlé de la bonne gouvernance qui devrait être qui devait être comme une base pour la prochaine mandature, pour le prochain candidat qui sera élu. Moi, je pense que c'est très important ce qu'il a dit, et il s'est placé du côté de l'opposition. C'est son droit le plus légitime, comme tout Congolais. Et là, il a été clair, parce que au moins lui, par rapport au Palou, parce que jusque là, c'est un débat dans différents salons dans le pays, il a été clair, il est de l'opposition, ça c'est clair. Il est pour un candidat chrétien, ça c'est tout à fait clair. Il est aussi pour un programme commun de l'opposition. Et là, je voulais peut-être placer un mot par rapport à ce que mon confrère Innocent a dit. Quand on dit programme commun, on converge vers la candidature unique. C'est tout à fait clair. Parce que Bemba a dit, je le cite, « Si nous allons à nous disperser, nous allons perdre les élections. » Donc là,
lui, en parlant du programme commun, en même temps, il parle pour un candidat commun.
Ambroise Mamba, vous allez réagir, je vous ai vu demander la parole, vous allez réagir. Mais par rapport à Léon Kingwa-Dondo, pourquoi il a attendu à quelques mois de la fin de la législature pour se prononcer ou pour sortir et présenter son parti politique?
C'est effectivement ça le problème effectivement, qui fallait déplorer, parce que Léon Kingwa en 2006 est venu d'abord comme personnalité. Il a fait ce qu'il a fait pendant le régime de Mobutu, Premier ministre, ainsi de suite. Et quand il est venu en 2006, il a fait une alliance avec l'Union pour la Nation, de Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui élu président du Sénat, mais il a attendu assez très longtemps. C'est peut-être un problème de calcul, un problème de stratégie pour enfin se prononcer. Et quand il a été élu comme président du Sénat, il était en alliance avec Jean-Pierre Bemba, qui est aussi opposant. Et il ne pouvait pas opter pour la majorité, c'est peut-être une certaine trahison, mais il a voulu se prononcer pour faire le contraire avec Antoine Gizenga. Antoine Gizenga, lui, a opté pour soutenir la candidature de Joseph Kabila. Quand il parle de la candidature du nationaliste des gauches, il parle directement de Joseph Kabila, mais on dirait que c'est une bêtise, mais passez-moi le terme, parce que Antoine Gizenga a d'abord refusé d'intégrer la maison de la majorité présidentielle, qui a réformé sa charte, et puis il a refusé d'être géré par cette plateforme présidentielle, mais il semble obliger Joseph Kabila à nouer des alliances avec lui, et peut-être pour faire prévaloir son poids politique de 2006, 13% au premier tour. Et c'est peut-être ça ce qu'il veut faire à Joseph Kabila. Mais il n'a pas pris la position comme Antipas Mbusa Nyamwisi du RCD-KML, qui refuse toujours de signer la charte. Mais lui s'est prononcé carrément. Et ils auraient dû, parce que l'alliance qu'il a signée avec l'AMP en 2006, c'était des 5 ans, après 5 ans. Et je m'imagine que peut-être Antoine Gizenga est dans une stratégie d'assumer les bilans de gestion des 5 ans de pays avec Joseph Kabila. Peut-être dans ce sens, il ne veut pas poser sa propre candidature.
En suivant Antoine Gizenga, on a l'impression qu'il n'est pas content du bilan de pouvoir en place.
S'il n'était pas content du bilan de ce pouvoir en place, il n'aurait pas pu soutenir la candidature de Joseph Kabila. Il aurait proposé la
candidature de Joseph
Kabila. Il aurait proposé sa candidature ou la candidature d'une autre personne. Comme ça, il fait le contre-poids du chef de l'État sortant pour dire, par exemple, non, pendant 5 ans, on n'a pas pu bien gérer. Nous, à la primature, par exemple, on l'a eu à le dire. Eux, le Palou, à la primature, par exemple, ils avaient les mains liées. Ils n'avaient pas la politique de leurs moyens. Ils ne contrôlaient pas la Banque centrale, par exemple. Voilà pourquoi, sur le plan social, vous n'avez pas ressenti les effets. Alors, s'il assume, il préfère soutenir Joseph Kabila. Donc, il assume aussi ce qu'on peut appeler, entre guillemets, l'échec de la gestion de 5 ans au pouvoir.
Et non seulement un mot sur les propos d'Antoine Gizenga, qui appelle à soutenir le candidat à la nationaliste de gauche, mais en même temps, il se plaint du fait que les propositions du Palou n'ont pas été prises en compte par le pouvoir actuel pour le développement du pays.
C'est une position ambiguë, tout simplement. La position n'est pas claire, elle est ambiguë. Alors, je ne sais pas à partir de quel moment Ambroise, lui, arrive à voir des lunettes pour comprendre qu'il s'agit d'un soutien ou implicite à Joseph Kabila. Parce que je ne sais pas voir ça comme lui. Mais en tout cas, Antoine Gizenga a quand même laissé, je crois même sa base, elle est quelque peu trahie. Vous voyez, Antoine Gizenga sait pertinemment bien que la coalition avec le président de la République dans la gestion commune qu'ils ont eue pendant les 5 ans, c'est un échec. Ça, il le sait. Et donc, voilà pourquoi, au lieu d'assumer, bon, il divertit un peu les gens en allant parler d'un candidat nationaliste de gauche. Parce qu'aujourd'hui, même si Jean-Baptiste me reproche un peu d'être un peu beaucoup plus académique, mais ne fût-ce que ça pour nous donner un petit éclairage. À partir de quel moment on peut parler, on peut qualifier quelqu'un de nationaliste? Vous comprenez? Et qui est nationaliste? On sait que Kabila père, c'était clair, mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Joseph Kabila n'est pas de la gauche comme tel. Non, Joseph Kabila n'est pas de la gauche, mais s'il faut le situer par rapport au contexte au niveau international, je crois que Joseph Kabila est beaucoup plus proche de Tshisekedi, disons, lorsqu'on parle de l'aspect social, le progrès social. Ici, on est
social-démocratie.
Voilà. Ici, vous avez l'UDPS, on dit progrès social. Là, on dit peuple pour le développement. C'est en fait des terminologies qui diffèrent, mais dont la réalité reste la même. On peut le classer par rapport aux sociaux-démocrates, un peu des gens, des centristes, parce qu'aujourd'hui, le nationalisme, dans le sens du communiste, n'existe plus. Aujourd'hui, comme tel, la tendance est aller vers le centre, et un centre qui tend d'ailleurs vers la droite. C'est tout simplement ça. Alors, d'où viendra ce candidat-là qui va soutenir?
vous voyez qu'il n'existe pas. Tout simplement, Gizenga veut dire que moi j'attends, je vais voir celui qui va être un peu plus fort par rapport à mes députés que j'aurai. Alors à ce moment-là, je vais dire bon, il est avec moi. À ce moment-là, on trouve les postes parce que tout ce que le Palou a gagné, c'est de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un parti de pauvres comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est un parti très riche.
Merci Innocent. Vous voulez ajouter un mot,
Valéra? Oui, c'est sur le même axe de réflexion que mon confrère Innocent, parce que c'est vraiment flou la position du Palou par rapport à ça. On ne sait pas, quand on parle de la gauche nationaliste, on ne sait pas exactement ce que le Palou veut dire. Et avant cela, le Palou argumentait comme quoi il a été déçu par la gestion de 5 dernières années. Et que donc là, moi je comprends, c'est un peu paradoxal la position du Palou. Et je pense, je ne suis pas un fin analyste politique, mais je pense qu'il faudra des débats à venir pour mieux comprendre la position du Palou, parce que je viens de Bukavu où j'ai lu un communiqué du Palou pour dire qu'il ne faut pas qu'on puisse interpréter vaille que vaille la position qui vient de part du Palou au niveau de Kinshasa. Donc on ne veut pas, on ne comprend pas exactement ce que le Palou veut dire, mais moi je comprends peut-être, hein, comme citoyen congolais, que le Palou veut continuer à garder les intérêts qu'il a eu pendant les 5 dernières années jusqu'à la fin de cette législature et qu'il ne veut pas mettre ses acteurs au pouvoir en danger.
Merci Jean-Baptiste Badera, grève des vendeurs et commerçants des différents marchés de Kinshasa. C'est notre dernier thème. Ils exigent aux commerçants expatriés d'abandonner l'exercice des petits commerces au profit des seuls Congolais. Ville sans marché, mardi dernier à Kinshasa, presque tous les marchés de la capitale sont restés fermés. Les vendeuses et vendeurs ont ainsi déserté les marchés en réponse aux mots d'ordre lancés par leurs différentes organisations, à savoir les syndicats nationaux des vendeurs du Congo, le Rassemblement national pour l'épanouissement des entreprises congolaises et l'Union pour le développement du commerce au Congo. Leur marche qui a débuté à la place de la gare avait pour point de chute la primature où la délégation a été déposée un mémo. Objectif étant de faire pression au gouvernement pour obtenir une solution satisfaisante à leurs revendications. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima.
Sur des banderoles qu'ils brandissaient, on peut lire entre autres, je cite, « Nous réclamons au gouvernement d'interdire aux expatriés ou les étrangers d'exercer les petits commerces et de vendre en détail dans notre pays. » Fin de citation. Ces vendeurs sont venus de presque tous les marchés, à savoir le marché de la Liberté de Massina, marché Ntomba de Matete, le marché de l'UPN, Gambela, Sombazigida et le marché central en direction de la primature. Selon l'un des organisateurs de la manifestation, leur revendication est claire.
Dans notre mémo, nous réclamons à ce que le petit commerce d'abord soit sécurisé, revienne aux Congolais. Alors, nous avons constaté cet envahissement-là et nos frères congolais n'ont pas encore la possibilité de se retrouver.
Une fois la primature, une délégation des manifestants a été reçue. Les négociations qui se sont poursuivies dans l'après-midi a mis autour d'une table ces représentants des vendeurs et les ministres de l'économie et celui des petites et moyennes entreprises, ainsi que le secrétaire général de la FEC. Ensemble, ils tentent de trouver une solution quant à la revendication des vendeurs.
Innocent, ce n'est pas la première fois que les vendeurs et vendeuses des Kinshasa font la grève par rapport au fait que les expatriés exercent les petits commerces que les Congolais devraient faire. On n'a toujours pas eu de solution par rapport à ça. Pourquoi, selon vous, ça continue?
En effet, vous l'avez dit, c'est clair. Donc, ce n'est pas la première fois et ça continue. Pourquoi ça continue? Mais tout simplement parce que c'est d'abord une expression de malaise social. Pendant qu'il n'y a pas de travail ici en République démocratique du Congo, bon, les Congolais trouvent quand même un peu d'espace dans des marchés pour essayer de survivre. Mais on vient les envahir encore à ce niveau-là pour commencer à faire concurrence avec des expatriés. Mais à la fin, ils se disent ils ne sont pas protégés, ils sont délaissés pour compte, alors qu'il y a un gouvernement. Donc c'est là justement la gestion Palou et autres. Parce que Palou, on en parlait de justice distributive. Vous comprenez? Et dans le peuple, on dit le peuple, on est là pour le peuple et son développement. Mais ouais, ça n'a pas abouti. Pourquoi pas? C'était un mariage contre nature et donc personne ne pouvait. Ambroise le disait ici. Gizenga se fâche parce qu'il n'avait pas le contrôle de la Banque centrale, il n'avait pas de tel contrôle et tel contrôle. Mais justement, parce qu'il ne pouvait pas avoir le moyen de sa politique pour répondre à la question sociale. Et voilà pourquoi on est arrivé à ce stade-là et avec déjà des députés qui ne se sont pas intéressés tellement à cette population pour que ces lois-là, déjà qui existent, soient davantage appliquées. Bon, on ne fait rien. Alors la population, elle se prend en charge, saisissant cette opportunité justement pour les élections. Et donc, moi, je crois que c'est la faute au gouvernement qui reste là et qui ne peut pas s'occuper réellement de la population. C'est cette population-là la raison de revendiquer cela.
Merci, Innocent. On nombreuses. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire finalement? Parce que chaque fois, ces rencontres commerçants, ministres, économie, petites et moyennes entreprises, sans solution durable. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour protéger ces vendeurs?
Je comprends qu'il y a, à ce niveau, il y a une certaine inefficacité de l'action gouvernementale. C'est pas si les membres du gouvernement sont dans une certaine concurrence ou dans un conflit des pouvoirs, des conflits des compétences, parce que j'ai constaté par exemple le problème demeure de très longtemps. Les nationaux ont revendiqué parce que les expatriés exercent le petit commerce, et Dieu merci parce que le Premier ministre leur a donné raison et puis il a préféré que la question se règle. Oui, mais c'est pour combien de temps? Est-ce que parce qu'il y a eu reprise des ventes au marché central et dans d'autres marchés périphériques, est-ce que les expatriés ne l'exercent plus?
C'est pas la première fois qu'on donne raison à ces commerçants.
Voilà, effectivement. C'est là qu'effectivement je voulais situer le problème à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le gouvernement doit effectivement s'assurer que les expatriés n'exercent plus le petit commerce parce que la loi ne leur autorise pas. Mais autre chose, c'est que le gouvernement doit aussi suivre du côté prix, parce que les consommateurs ont aussi des droits à revendiquer. Parce que les consommateurs estiment, par exemple, que les expatriés vendaient leurs articles à moins cher et les nationaux les vendaient à très cher, parce que le même article pouvait l'acheter à 1000 francs congolais chez les expatriés et chez les nationaux à 5000 francs congolais. Et là, le gouvernement doit aussi intervenir à ce niveau, au niveau des prix, l'institut des prix, parce que les prix ont été libéralisés sur le plan nationaux, sur le plan national plutôt, mais les gouvernements doivent aussi suivre à travers ce ministère de l'économie pour qu'effectivement les prix soient régulés et que si il y a côté bénéfice, que les nationaux ne puissent pas exiger avec les bénéfices, parce qu'il n'y a pas seulement que les vendeurs qui ont des droits à revendiquer, les consommateurs aussi.
Merci Ambroise. Jean-Baptiste Vadera, est-ce que cette situation est vécue aussi à Bukavu, au Sud Kivu?
Effectivement, Kelly, la même situation est vécue au Sud Kivu, peut-être pas avec la même démarche que les opérateurs économiques, la classe moyenne à Kinshasa, avec des marges de revendication, mais c'est vécu plusieurs fois. On a eu à animer des émissions dans lesquelles les commerçants locaux ont dénoncé cette façon d'agir, avec notamment les gens qui fabriquent l'eau minérale à Bukavu et qui produisent l'eau minérale, et qui dénonçaient le fait qu'il y a l'eau minérale qui venait des pays voisins et qui envahissait le marché local, ce qui est tout à fait anormal. Parce que comme vous le savez, Kelly, je pense que d'aucuns le savent, c'est anormal qu'on puisse vivre dans un pays où quelqu'un qui vient de l'étranger puisse venir attaquer la classe moyenne, les PME. Parce que ce sont les PME qui ont fait vivre les pays, surtout à l'Est, pendant assez longtemps. On ne peut pas accepter que ces gens viennent pour vendre des bonbons, des allumettes, des beignets, pendant que la classe moyenne, les petits commerçants qui vivent à Kindu, à l'intérieur du pays, vont vendre la même chose. C'est ces gens qui viennent de l'extérieur, on n'est pas contre les étrangers, mais ils devraient créer par exemple des usines, comme la Bralima par exemple, comme la Bracongo, et les PME vont vendre ça après que les grossistes aient produit, qu'ils aient construit des usines, et cela va permettre à la classe moyenne de ne pas disparaître. Mais si on continue comme c'est le cas aujourd'hui, on risque d'arriver à une étape où il n'y aura plus de classe moyenne au Congo, ce qui était dangereux pour toute la population.
Merci Jean-Baptiste Vadera, c'est par vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique, au micro Kéline Kouté, Samuel Kachaka a réalisé pour vous cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon suite de programme sur la fréquence de la paix.